Bonjour. Nous approchons de la fin de notre voyage à travers les règles de discernement des esprits dans les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Nous en sommes au 13e épisode de cette série de 16 épisodes qui est l'adaptation française de la série d'entretiens en anglais « Le discernement des esprits, libération des captifs » du père Timothy Gallagher. Vous pouvez retrouver ces entretiens en anglais sur la chaîne YouTube Discerning Hearts. C'est Isabelle Rebelle qui vous parle. 11e règle. Que celui qui est dans la consolation s'efforce aussi de s'humilier et de s'abaisser autant qu'il lui est possible, pensant de combien peu de choses il est capable au temps de la désolation lorsqu'il est privé de la grâce sensible ou de la consolation. Au contraire, celui qui est dans la désolation se rappellera qu'il peut beaucoup avec la grâce, qu'elle lui suffit pour résister à tous ses ennemis, pourvu qu'il s'appuie sur le secours de son Créateur et Seigneur. On a déjà atteint la 11e des 14 règles qui constituent les règles du discernement des esprits de Saint Ignace. On a d'abord vu une série de règles à appliquer quand on est en période de désolation, puis une règle, la 10e, à utiliser quand on est en période de consolation. Celle que nous étudions aujourd'hui traite d'une même personne qui peut se trouver à un certain moment en désolation et à un autre moment en consolation, et qui réussit à rester en équilibre. Ici, Ignace décrit comment une personne qui a atteint un niveau de maturité dans son discernement réagit aux deux situations. Consolation, désolation, on l'a déjà dit, l'alternance peut se faire sur des semaines, des mois ou au cours d'une même journée. Il est difficile de prédire quand on arrive à la fin de l'une pour entrer dans l'autre. On ne le sait pas vraiment. Par exemple, quand Mgr Ronald Knox s'est converti au catholicisme 5 ans après avoir été ordonné prêtre dans l'église anglicane, il a vécu une longue période ininterrompue de consolation. La plupart d'entre nous a connu ça aussi, de longues, voire très longues périodes de consolation, et malheureusement aussi peut-être une ou plusieurs périodes de désolation très longues. Et évidemment, ça ne devrait pas arriver, c'est un enseignement fondamental des règles. Dieu ne veut pas que nous restions prisonniers de la désolation spirituelle. Et si nous utilisons les 3 étapes de discernement, prise de conscience, compréhension et réaction, les expériences de désolation deviendront de plus en plus courtes. Oui, l'alternance entre la consolation et la désolation peut se faire sur de longues périodes, mais aussi plusieurs fois dans la même journée, voire dans une même heure de prière, où on peut passer de moments d'intense union au Seigneur à des moments de désolation avant que la paix ne revienne. C'est la réalité d'une vie spirituelle ordinaire. On ne peut pas prédire ces va-et-vient, parce que ça appartient à la providence divine. Cependant, nous sommes assurés qu'il y a un bon berger qui marche avec nous, et que même si nous passons par une vallée obscure, nous ne redoutons aucun mal car il nous accompagne, nous conduit et nous défend. Nous savons que Dieu est fidèle, qu'il est avec nous, et qu'avec sa grâce, nous pouvons en toute confiance rester convaincus qu'il nous comblera de son amour pendant les périodes de consolation spirituelle et qu'il nous donnera toutes les forces nécessaires pour tenir bon et traverser en toute sécurité les temps de désolation spirituelle. Et c'est exactement ce qu'Ignace veut montrer dans la 11e règle. Il commence par un conseil pour celui ou celle qui traverse un moment de consolation. Que celui qui est dans la consolation s'efforce de s'humilier et de s'abaisser autant qu'il lui est possible. Pourquoi donc? Quand mon cœur déborde de l'amour de Dieu, quand ma prière est joyeuse, quand mon être tout entier est en communion avec lui, pourquoi devrais-je me sentir particulièrement humble, modeste? Comme Marie quand elle dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur ». C'est l'expression d'une expérience de consolation spirituelle riche, abondante, magnifique et en même temps, Marie, avec l'intuition extraordinaire des saints, est complètement consciente de sa simplicité et de sa petitesse. « Il s'est penché sur son humble servante », dit-elle. C'est un exemple parfait de l'attitude que Saint Ignace nous engage à adopter pendant les temps de consolation. Prenons maintenant un exemple de manque d'humilité pour comprendre ce qui risque d'arriver quand on ne suit pas le conseil de Saint Ignace et qu'on ne reste pas modeste. On peut penser à saint Pierre le soir du jeudi saint. Jésus dit aux disciples « Cette nuit même, vous allez tous m'abandonner. » Et Pierre lui répond « Même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Il est complètement sincère, il aime vraiment Jésus, il ne veut sûrement pas l'abandonner, encore moins au moment où Jésus aura besoin de lui. Et on connaît bien la réponse de Jésus. « Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Et Pierre insiste « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Mais on le sait, Pierre n'est pas aussi fort qu'il l'imagine et à l'heure du test, le soir même, il renie effectivement Jésus 3 fois. Et le coq chante. Et il y a ce passage émouvant où Jésus regarde Pierre qui se met à pleurer. Il y aura par la suite la guérison de Pierre avec la triple question de Jésus qui apaisera le cœur de Pierre. « M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? » C'est tout. Ça permet à Pierre d'exprimer son amour et c'est ce qui le guérit. Que se serait-il passé ce soir-là si Pierre, au lieu d'insister sur ses propres forces et de compter seulement sur lui, avait dit à Jésus « Seigneur, tu sais que je ne veux sûrement pas t'abandonner. Tu sais que je t'aime. » Mais je me connais, je suis faible et je sais que je peux tomber, te décevoir dans l'épreuve. Seigneur, aide-moi, reste avec moi. Aide-moi à traverser les épreuves qui arrivent en toute sécurité, inébranlable à ton côté, sans te renier, sans t'abandonner. S'il avait dit cela, Pierre aurait-il eu à vivre les reniements et les larmes amères et tout le chagrin que cela lui a donné? C'est la première chose qu'Ignace met en avant dans cette règle. Que celui qui est dans la consolation s'efforce de rester humble et modeste autant qu'il lui est possible. De ne pas devenir naïvement et imprudemment présomptueux. Tous les problèmes sont réglés, je peux accomplir ce que je veux. Parce que ça revient à se condamner à la chute sur le plan spirituel. C'est le premier volet de la règle. Et Ignace, qui est si pragmatique, fournit aussi les moyens de réussir à rester humble. En pensant de combien peu de choses il est capable au temps de la désolation, lorsqu'il est privé de la grâce sensible ou de la consolation. Effectivement, chacun d'entre nous peut repenser à des moments de désolation, même récents, où nous avons certainement été faibles, en raccourcissant notre temps de prière, en abandonnant des résolutions, en manquant d'énergie pour certaines initiatives. Repenser à ces moments-là, se souvenir combien ça a été dur de les traverser, est un bon moyen de rester humble et modeste quand, dans la consolation, tout semble possible. Parce que toute cette énergie, cette joie de la consolation, on s'en rend alors bien compte, sont des dons de Dieu et certainement pas un accomplissement personnel. Ça aide à rester humble au sens évangélique du terme. Dieu accorde sa faveur aux humbles, on l'a déjà dit. La première moitié de la 11e règle peut donc se résumer ainsi. Que celui ou celle qui est dans la consolation s'efforce de rester humble pour éviter de devenir naïvement et imprudemment présomptueux, présomptueuse, et risquer de se condamner à la chute comme Pierre et aux souffrances qui l'accompagnent. Dieu nous aime trop pour vouloir nous exposer à ça. Et que dit la deuxième moitié de la règle au sujet de la personne en désolation ? À quoi doit-elle penser? Que doit-elle essayer de faire, elle aussi? Cette fois, l'invitation est pour celui ou celle qui est en désolation de considérer qu'il ou elle peut faire beaucoup par la grâce de Dieu, que cette grâce lui suffit pour résister à tous ses ennemis, pourvu qu'il ou elle s'appuie sur le secours de son Créateur et Seigneur. Je peux faire beaucoup avec l'aide de Dieu. Je ne sens pas sa présence, mais je sais qu'il est là pour moi. Je ne la sens pas parce que je suis en désolation, mais je sais par la foi qu'il est avec moi. Elle me suffit pour résister à tous mes ennemis. Tous mes ennemis, c'est fort. Il n'y a aucun ennemi spirituel auquel je ne puisse pas résister et que je ne puisse pas vaincre, parce que la grâce de Dieu est avec moi et que j'en reçois suffisamment pour réussir à traverser la désolation sans encombre. Et en ayant ce genre de réflexion, j'emmagasine de la force pour les temps difficiles à venir. Donc, d'un côté, dans les périodes de consolation, je ne deviens pas naïvement présomptueux ou présomptueuse. Et d'un autre côté, dans les périodes de désolation, je ne me décourage pas non plus désespérément. En restant humble dans la consolation et confiante dans la désolation, j'avance fermement dans ma vie de foi vers le Seigneur. c'est le portrait d'une personne qui a atteint la maturité dans le discernement, humble dans la consolation, confiant dans la désolation. Je ne sais pas si vous connaissez cette image de la divine providence dictée à sainte Faustine, une jeune religieuse polonaise. Elle représente Jésus qui semble venir à nous et qui ouvre devant nous sa poitrine dont jaillissent les rayons de ses grâces, avec à ses pieds l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Elle est très répandue, très populaire, si on peut dire, en Amérique du Nord. Peut-être justement parce que dans le monde d'aujourd'hui, où il y a beaucoup de cœurs en désolation, cette phrase « Jésus, j'ai confiance en toi » exprime bien la confiance de celui qui traverse cette période de désolation. Il y a un besoin immense dans ce monde difficile et plein de problèmes de se tourner vers ce Jésus en qui nous pouvons avoir vraiment confiance. La grande dévotion à l'image de la divine providence est l'expression d'un vrai besoin du cœur humain qui a toujours existé mais semble encore plus aigu de nos jours. C'est pourquoi ce qu'enseigne Ignace dans ses règles est vraiment important. Et le très grand succès des séminaires et des retraites du père Gallagher qui parcourt depuis de nombreuses années l'Amérique du Nord pour enseigner le discernement des esprits est une preuve qu'elles répondent à un besoin essentiel. Précisément parce que saint Ignace met l'accent sur la désolation et que ces règles ont pour objet de nous aider dans le combat pour résister à la désolation, à laquelle personne ne peut échapper. Le monde d'aujourd'hui connaît beaucoup de découragement, dans l'Église catholique elle-même. Tout ça est très pesant, alors découvrir qu'il y a un chemin de libération de cette désolation, de ce découragement, qu'il est possible de vivre dans ce monde avec joie, avec espérance et énergie, est très réjouissant. C'est pourquoi cet enseignement est si adapté à notre époque, si moderne. Nous l'avons depuis 500 ans, depuis que saint Ignace l'a rédigé au XVIe siècle, et il a à toutes les époques aidé des hommes et des femmes, mais il s'applique particulièrement bien au temps présent. Humble dans la consolation, confiant dans la désolation. Ignace veut nous enseigner une vie de discernement équilibrée parce que Dieu travaille en nous tout le temps. Il ne prend pas de pause quand nous sommes en désolation. S'il y a une panne d'électricité de quelques heures dans la journée, on se dit « bon, j'ai perdu mon temps pendant la panne, mais au moins ça n'a pas duré toute la journée et j'ai quand même pu faire quelque chose ». Ça n'arrive jamais, les pertes de temps, dans la vie spirituelle. Si la panne d'électricité est une métaphore pour la désolation, elle est providentielle dans le sens que Dieu ne l'inflige pas lui-même. C'est toujours l'ennemi, on l'a dit plusieurs fois. Mais il la permet parce qu'il veut nous combler à travers elle, nous voir grandir et en recevoir des fruits. Donc il est très important de prendre conscience que Dieu est toujours à l'œuvre dans notre vie, d'une certaine façon dans la consolation et d'une autre dans la désolation, mais tout aussi efficace. Il n'y a jamais de perte de temps avec Dieu. C'est très réconfortant. En nous convertissant, nous entrons en relation avec Dieu et il devient notre maître et nous son disciple, comme Jésus et ses disciples. Tu m'apprends le chemin de la vie, dit le psalmiste. Dieu est constamment en train de travailler en nous. La question est, en sommes-nous conscients? Dans le livre « L'abandon à la divine providence », un classique attribué à Jean-Pierre de Caussade, un jésuite du XVIIe siècle, on lit que Dieu est toujours au travail, partout, tout le temps, mais parce que ce sont seulement les yeux de la foi qui nous permettent de voir son action, le plus souvent nous l'ignorons et nous en sommes surpris. Il écrit « Tout ce qui se fait en nous, autour de nous et par nous, renferme et couvre son action divine, quoique invisible, ce qui fait que nous sommes toujours surpris et que nous ne connaissons son opération que lorsqu'elle ne subsiste plus. Si nous percions le voile et si nous étions vigilants et attentifs, première étape du discernement, la prise de conscience, Dieu se révélerait sans cesse à nous et nous jouirions de son action en tout ce qui nous arrive. Parfaite description d'une vie de discernement. À chaque chose, nous dirions « Dominus est », c'est le Seigneur. Une exclamation qui vient du chapitre 21 de l'Évangile de Jean quand les disciples sont dans la barque à la mer de Tibériade, tôt le matin, une semaine après la résurrection, et que celui qu'ils voient comme un étranger debout sur le rivage leur suggère de jeter leur filet de l'autre côté. Ils le font, et devant l'abondance de poissons, Jean réalise « c'est le Seigneur ». C'est le moment où soudainement la signification spirituelle de ce qui se passe éclate et se révèle. C'est le Seigneur, ce n'est pas un étranger, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est avec nous, vivant, présent dans notre vie quotidienne. Nous pensions que nous étions seuls, que notre travail était stérile, et soudain nous réalisons que le Seigneur est avec nous et nous guide. Jean-Pierre de Caussade dit que c'est ce qui arrive dans notre vie si nous sommes vigilants et attentifs, si nous vivons éveillés. C'est l'invitation à mener une vie de discernement, prendre conscience en restant éveillé. Première étape du discernement. Illustrons cette attitude en analysant l'exemple théorique de Jeanne, qui suit une retraite pour faire les exercices de Saint-Ignace. Les exercices constituent le contexte dans lequel les règles s'inscrivent. Elle part dans une maison de prière et passe plusieurs jours en prière. Elle prie avec les Écritures plusieurs fois par jour. Et elle rencontre son directeur de retraite en fin de journée, ce qui lui donne l'occasion de décrire ce qui lui arrive quand elle est en prière. Il l'aide à mieux comprendre ce qu'elle vit et à voir où le Seigneur la conduit et suggère des lectures pour le jour suivant. Le premier jour à la maison de prière se passe bien. Elle se sent paisible. Elle a l'intuition qu'elle va rencontrer le Christ pendant cette retraite. Jeanne est une personne très pieuse. Elle aime le Seigneur et elle veut se mettre à son service. Elle est fidèle à la prière et elle est arrivée à la retraite avec la conviction qu'elle allait connaître une rencontre spéciale avec Jésus pendant ses journées de prière. Elle est en train de méditer le texte suggéré par son directeur, un passage du chapitre 55 du livre d'Isaïe. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Oui, dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans la paix. » Les versets la remplissent de confiance. On peut dire qu'elle est en train d'expérimenter une douce et sainte consolation spirituelle. Le lendemain, elle continue à prier. Cette fois, elle médite un passage du chapitre 11 de l'évangile de Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Dans sa prière, elle sent monter en elle un sentiment de purification, de détente, comme si elle était immergée spirituellement dans la lumière et la joie. Cette sensation reste avec elle pendant toute la journée. Elle ressent intimement la présence de Jésus, sa proximité, sa tendresse. Elle continue la journée en priant et en méditant d'autres passages des Écritures. Encore une fois, selon la définition de saint Ignace, elle est en train de vivre la grâce d'une période merveilleuse de très riche consolation spirituelle. Le troisième jour, elle continue la même routine de prière, cette fois avec un passage du Cantique des Cantiques. Elle ressent ce qu'elle décrit comme une douce joie à la pensée que Dieu l'aime. Visiblement, la consolation spirituelle continue. Du coup, elle prend la décision de prier 1 heure et demie par période au lieu 1 heure, comme les autres jours, pour rester plus longtemps dans l'intimité du Seigneur, pour ressentir son amour et prolonger la joie et la consolation qu'elle ressent. Ça veut dire qu'au lieu de prier 4 heures par jour, ce qui est déjà beaucoup, elle va maintenant prier pendant 6 heures chaque jour. En fait, ce jour-là, elle finit même par rester en prière pendant 7 heures. Elle ne mentionne pas le changement à son directeur. Dans l'exaltation, elle a bien du mal à dormir cette nuit-là. Il n'est pas difficile de voir qu'à ce rythme-là, elle ne pourra pas tenir bien longtemps. Et en y regardant bien, on voit qu'il se passe exactement ce dont parle saint Ignace dans la première moitié de la 11e règle. Jeanne, qui est dans une phase de consolation spirituelle, n'est pas en train de chercher à rester aussi humble et modeste que possible. On ne la juge pas, bien sûr, on est tous passés par là. Elle n'est pas en train de penser de combien peu de choses elle est capable au temps de la désolation. Dans la joie et l'excitation de la consolation, elle est devenue naïvement et imprudemment présomptueuse. Et elle étire son énergie. Un peu comme Pierre le soir du jeudi saint qui, dans l'enthousiasme de son amour et de son intimité avec le Seigneur, pense qu'il peut en faire plus que ce que ses seules capacités lui permettent quand vient l'épreuve. Le lendemain, elle se lève avec une mauvaise migraine. Elle se sent épuisée, c'est bien compréhensible. Elle est stressée. C'était prévisible parce que la veille, elle a abusé de son énergie. Et maintenant, elle a du mal à entrer en prière. La joie de la retraite s'est évanouie, elle se sent triste et fatiguée, elle est de mauvaise humeur. La désolation spirituelle est en train de s'installer. Que se serait-il passé pour Jeanne si elle avait suivi la recommandation de la première moitié de la règle 11 ? Que la personne qui est dans la consolation, comme Jeanne l'était, s'efforce sereinement, tranquillement, de rester humble. En fin de journée, quand elle rencontre son directeur, elle finit par lui parler de ce qu'elle a fait. Ce qui est magnifique parce qu'il va pouvoir l'aider à retrouver un équilibre. En passant, on peut souligner encore que, comme on le verra plus tard pour Saint-Ignace, le discernement ne se fait pas de manière isolée, seul. Pour lui, c'est toujours mieux de pouvoir partager, d'une manière ou d'une autre, son voyage spirituel avec d'autres. Mais on y reviendra quand on abordera la règle 13. Judicieusement, son directeur suggère qu'elle réduise le temps de prière et qu'elle se repose. C'est ce qu'elle fait, mais le jour suivant, la lourdeur, la morosité sont toujours là, l'enthousiasme est tombé. Elle persévère quand même. Elle en est au 6e jour de sa retraite de 8 jours. Elle essaye de prier, mais elle est vraiment perturbée. Fatiguée, le cœur lourd, inquiète, elle commence à douter de son expérience de consolation des premiers jours. Peut-être que l'expérience n'était même pas réelle, que je me suis fait des idées, que mon imagination hyperactive m'a trompée. Pour qui je me prends pour croire que le Seigneur me donnerait ce genre de tendresse et de bien-être? Elle commence à se sentir vraiment découragée et à penser qu'elle n'est pas faite pour une vie de prière intense. Ce désir ardent qu'elle avait de se rapprocher de Dieu, ce n'était qu'une illusion, le fruit de son imagination. La journée entière se passe dans la confusion et le désarroi. Manifestement, elle est en pleine désolation spirituelle. Tous les signes classiques sont présents. Elle interprète le passé spirituel. Pendant les premiers jours de la retraite, tu te racontais des histoires, tu te faisais un film. Ce n'était que ton imagination délirante, sûrement pas la consolation de Dieu. Elle prédit l'avenir. Tu n'es pas faite pour une vie de prière sérieuse. Que va-t-il arriver à sa vie spirituelle si Jeanne ne prend pas conscience de ce qui se passe, ne comprend pas qu'elle est en désolation et ne réagit pas en la rejetant? Rien de nouveau ici, c'est ce dont nous parlons depuis le début de ces conversations. Maintenant, Jeanne en est à son 7e jour de retraite. Elle parle à son directeur de tout ce qu'elle traverse, de ses doutes. Il est capable de lui faire comprendre que les jours merveilleux qu'elle a vécus dans la consolation étaient authentiques et bien réels. Avec son aide, elle réussit à reprendre confiance et à croire à la vérité de son expérience. Prendre conscience et comprendre. Elle n'arrivait pas à comprendre, elle était perdue, mais avec l'aide de son directeur, elle a réussi à y voir clair. C'est tellement utile de ne pas être seule dans le discernement. Son directeur réussit aussi à la convaincre d'avoir confiance que le Seigneur la comblera même dans la désolation qu'elle vit maintenant. Il s'appuie bien sûr sur la règle numéro 9 qui nous dit que Dieu, qui nous aime tellement, peut permettre la désolation pour nous enseigner quelque chose. Ensuite, il invite Jeanne à méditer le passage en Jean 14. « Que votre cœur ne se trouble pas. » C'est ce qu'elle fait, elle se repose également et va faire une marche. Le calme revient. Et arrive le 8e et dernier jour de la retraite. Elle reprend le passage d'Isaïe avec lequel elle a commencé. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Oui, dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans la paix. » Le calme l'envahit. Elle sent profondément dans tout son être à quel point Dieu l'aime. Elle sait aussi au plus profond d'elle-même et grâce à l'aide de son directeur de retraite que la douceur des premiers jours était bien réelle et que c'était l'expression de la tendresse de Dieu. Mais ce qu'elle a vécu dans la désolation lui a apporté quelque chose de plus. Elle se connaît un petit peu mieux maintenant. Elle sait qu'elle doit être attentive aux fluctuations de son imagination et de ses émotions pour ne pas retomber aussi facilement dans le piège de l'excitation et de la chute, une sorte de naïveté spirituelle. Elle prie pour ça. Elle demande une plus grande force, un meilleur équilibre émotionnel. Elle finit la retraite, le cœur plein de gratitude et d'espoir pour ce qui s'ouvre devant elle dans sa relation avec Dieu. Elle sent que l'expérience la laisse avec une nouvelle sagesse et une plus grande sérénité. Dans l'histoire de Jeanne, on a vu les deux parties de la règle 11. Jeanne a fait preuve de naïveté quand elle était dans la consolation et de découragement dans la désolation. Ce sont les deux choses qu'Ignace voudrait nous épargner. En restant humble en temps de consolation pour ne pas devenir naïvement prétentieux et chuté, en restant confiant en temps de désolation dans l'amour et la fidélité de Dieu qui nous donnera toujours la grâce nécessaire pour surmonter l'épreuve et vaincre tous les ennemis spirituels. C'est à cela que toutes les règles que nous avons vues jusqu'à maintenant veulent nous mener. Si on comprend ces principes, si on sent qu'on est prêt à entreprendre de se comporter de cette façon, en consolation et en désolation, alors on est bien parti pour commencer à vivre une vie de discernement. Et c'est un chemin qui en vaut vraiment la peine. C'est en fait le chemin de la sainteté dans la vie spirituelle quotidienne.